Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Roten.
19h03 sur RMC, la deuxième heure de Roten sans flamme. C'est maintenant avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco, comme tous les lundis, avec François Pinet.
Et oui, je suis là.
Toute la semaine, il sera à mes côtés.
Je vais essayer.
Et on va se régaler. Oui. Allez, on a une grande semaine, François, une semaine Ligue des Champions.
Oui.
Mais encore beaucoup d'actu sur cette deuxième heure. Restez bien avec nous. On est là jusqu'à 20h. Si vous avez raté la première heure, on vous le dit tous les jours aussi. Elle est déjà disponible en podcast. Vous
Allez-y.
Pouvez aller télécharger le podcast et vous abonner à la chaîne Roten sans flamme. Comme ça, vous avez accès à tout.
Un et excellent surtout, procès, par exemple.
Appelez vos amis et venez nous écouter sur cette deuxième heure parce qu'elle va être intéressante.
Appelez vos amis et dites-leur de jouer avec nous. Parce qu'à 19h45, c'est le quiz de
Le procès,
Moreau,
je l'ai gagné.
Vous savez. Vous pouvez aller vérifier ça sur le podcast, il n'y a pas de problème. À gagner toute la semaine, ceux qui jouent avec nous des maillots de légende signés par les légendes du foot. Et bien, ce lundi, on vous fait gagner le maillot du Barça de Xavi, signé, authentifié grâce à notre partenaire authentiquesignature.com. Et pour ça, il faut envoyer 32-16 tous 4 ou quiz au 7-32-16.
Un bon petit joueur, Xavi.
Mon petit joueur, ouais, pas mal. À 19h30, Roten sélectionneur. Tiens, la quatrième liste de Jérôme Roten avec beaucoup de changements cette semaine dans la liste des 26. Il y a trois joueurs qui ont perdu leur poste.
Ah, il y en a qu'on choisit.
Je pense qu'il y en a qui tremblent.
Il y en a qui jouent plus, là.
Voilà, ils écoutent.
Ah, non, mais, et c'est sûrement Mbappé, du coup, puisqu'il n'a pas été bon, non?
Ah, peut-être. N'en dis pas plus.
Bah, j'en dis pas plus.
Il faut peut-être qu'ils se reposent.
Attention qu'il n'y ait pas un de tes poulains qui soit viré, Eric.
Ouais.
De mes poulets, hein, qui aiment.
Ah
bah,
oui.
Ça peut être de mes poulets aussi. Oui.
Bon, en tout cas, ça bouge beaucoup. Je vais vous dire un petit indice au niveau des latéraux. Voilà. On va en parler avec Fabrice Kingston.
Il a un joueur qu'il aime bien, à mon avis, il est sur la sellette.
Ouais, peut-être sur la sellette. Et puis, bien sûr, vous le savez, tous les lundis, il y a la lutte pour le titre. On s'y intéresse encore plus ce lundi, puisqu'on a peut-être assisté ce week-end à un tournant de la saison.
On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.
On a frappé le but, Hudson Edouard. Une occasion, un but, un parcours de champion, et l'on se mène déjà en 0.
C'est plus des gamins maintenant, hein. Ce sont des messieurs.
De Florian Thauvin.
Florian Thauvin 2-0.
T'as prévu de prendre les 3 points, de vivre à une fin de match tranquille, et puis patatrac.
Qui réduit l'écart.
En fait, ce soir, je pense qu'on a déconné. C'est-à-dire qu'on avait la victoire dans les mains. On était plutôt bien dans notre deuxième mi-temps.
Oh,
on savait pas trop.
Zakaria. Denis Zakaria. C'est le capitaine qui touche Bola.
C'est un miracle qui soit redessé avec une victoire. Je pense que même avant le match, ils n'avaient pas couché ce match-là comme une victoire.
Ansu Fati face à Risser. Le lob. Il est dévié par Risser dans son propre but.
Incroyable. Et merde.
On va pas tout remettre en question à cause de ça. Il faut rebondir rapidement à Strasbourg.
Tu as un joueur hors norme ou qu'il y a des joueurs hors norme, c'est quand même plus fatigué d'être. C'est quand même plus facile d'être champion de France que.
On n'a pas eu la suite de la phrase. C'est pas grave.
Pas compris ce qu'il disait.
Vous l'avez entendu. On a déconné, c'est ce qu'a dit Pierre Sage à l'issue du match de la défaite de Lens face à Monaco, alors que les Lensois menaient 2-0. Ils ont été battus par Monaco 3-2 et ont perdu leur place de leader du championnat, puisque le PSG a repris quelques heures ensuite la tête du championnat après sa victoire 3-0 face à Metz. Il n'y a que 2 points de retard entre Lens et le PSG, mais Lens a peut-être pris un coup sur la tête. Est-ce qu'on a assisté ce week-end à un tournant du championnat dans cette course au titre? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant dans Roten sans flamme ou le WhatsApp 06 12 424 pour vos messages. Jérôme, tournant ce week-end.
Écoute, moi je l'avais dit vendredi, je pense que ce match-là, fallait pas le mettre de côté, le négliger et le prendre comme un gros match à faire côté Lensois, comme ça a été le cas quand ils se sont déplacés à Marseille et au Parc des Princes. Avec la réception de Marseille, de Lyon, du PSG, Monaco fait partie des matchs un petit peu gala. Tu vois que tu peux avoir dans une année, et en plus ça tombait bien parce que la série des Lensois après ce match-là, elle se complique. Déplacement à Strasbourg prochainement, donc ça peut plus le déplacement à Lyon en Coupe de France. Donc il y a des choses qui peuvent s'installer et vaut mieux garder une dynamique positive quand tu commences des séries comme ça. Et en effet, la première mi-temps, elle est pas forcément exceptionnelle, mais ils ont la chance de mener 1-0. Et puis après, sur le fil du match, ce qui est terrible pour les Lensois, c'est que sur la deuxième mi-temps, t'as l'impression qu'ils maîtrisent quand même mieux leur sujet. Et c'est là qu'ils se font rattraper et qu'ils prennent ce troisième but sur une erreur grossière. Sur le but de Fatih. Oui, mais après, certains qui vont dire c'est la faute à pas de chance. Et on a déconné et on leur a offert la victoire. Il y a beaucoup de joueurs qui ont parlé comme ça et Pierre Sage aussi. Et ceux qui sont un peu plus réalistes ici et qui se disent, en effet, quand t'as un match où la pression elle est supérieure à un match classique, que t'arrives sur les 10 derniers matchs dans la dernière ligne droite, où t'es bien placé, t'es devant le PSG, bah la pression elle est tout autre. Quand tu commences le match, tu penses à beaucoup de choses. Moi j'ai pas aimé avant le match de Monaco que beaucoup de joueurs te parlent déjà de la confrontation contre le PSG le 12 avril. Le week-end du 12 avril.
Après, on leur parle aussi de cette
histoire. Non, mais d'accord, alors, je te dis pas, ils devraient penser à ça, parce que ça, c'est humain et c'est personnel surtout. Mais moi, je comprends pas quand tu es une équipe comme Lens, tu fais un championnat incroyable, t'as déjoué tous les pronostics, que tu luttes pour les places européennes aujourd'hui, que déjà tu te projettes sur un match, une confrontation que tu vas avoir le 12 avril, sachant qu'avant ce match-là, donc t'avais le match de Monaco, t'as le déplacement à Strasbourg, t'as le déplacement à Lyon en Coupe de France, donc t'as plein d'échéances qui sont importantes.
T'as le derby contre Lille à Lille.
T'as aussi. Le derby contre Lille. Ouais. Donc comment tu peux déjà nous dire oui, oh bah vous savez, on en parle souvent, hein, le match, la réception de Paris à Bollard, le 12. Mais c'est le meilleur moyen pour te planter avant. Et la preuve, c'est que je pense que cette défaite, elle est en effet sur des erreurs collectives, individuelles. Mais ça, quand tu prends des buts, de toute façon, il y a toujours des erreurs. Hein. Donc ça, c'est bien beau de nous l'expliquer. Mais je pense que c'est aussi une défaillance mentale sur ces matchs-là. Et pour l'instant, c'est vrai que cette équipe de Lens, elle n'a pas progressé sur ces matchs-là à haute pression. Et tu verras que le déplacement... Alors, j'espère que j'aurai tort pour les Lensois. Et c'est pour ça que je disais que ce match-là était un vrai tournant pour eux. Tu verras que le match à Strasbourg, il va être très compliqué et moi je les vois pas gagner là-bas. Oui, et donc si c'est le cas, en effet, bah ils vont rentrer pas dans le rang parce que ils ont toutes les cartes en main pour finir deuxième ou troisième du championnat. Mais pour la course au titre, s'ils gagnent pas à Strasbourg, je peux te dire que le PSG va au Havre. Tu reviendras pas sur le
tournant
PSG.
Du championnat. Donc pour toi, Jérôme, pour toi, Eric.
Non, parce que le problème, c'est que, regarde, après la victoire de Paris contre l'OM 5-0, on a dit ça y est, c'est le tournant, c'est le Grand Paris qui est de retour, c'est fini, ça va aller au bout et tout. Puis le match après, ils perdent à Rennes. Ouais. Et souvenons-nous ce qu'on nous dit quand le Lens en prend 3 au Stade Vélodrome là. Donc c'était pas si longtemps que ça.
Ouais, c'était.
Voilà, donc ce championnat est fait quand même de d'accidents réguliers. Alors moins pour ces équipes-là parce qu'elles sont tout en haut, bien sûr, mais sur chaque accident ou sur chaque mauvaise performance, on va dire c'est un tournant.
Non mais c'est pas n'importe quelle défaite là, c'est pour ça, c'est parce que tu mènes 2-0, tu perds finalement le match 3-2, ça peut laisser des traces.
Ah ouais, mais moi je trouve que celle au Stade Vélodrome, elle est plus terrible que
celle-là.
Elle
est plus terrible, c'est vrai. C'est
parce que celle du Stade Vélodrome, ils n'existent pas, on les voit pas, ils se font défoncer. Souvenez-vous quand même, c'est le scénario du match qui fait que l'OM en marquant rapidement, l'équipe qui n'était pas en confiance, elle était en confiance. Et ils ont déroulé leur match et là on s'est dit c'est chaud. Et le problème de Lens, on le connaît puisque c'est assez récurrent depuis le début de la saison. Sur les gros matchs, je crois qu'ils se font souvent accrocher, non? Il me semble.
Eh oui, c'est ça. Défaite à Paris, défaite à Marseille, la défaite contre Monaco.
Voilà, donc tournant, non, je veux pas dire tournant. Par contre, c'est sûr que quand Lens se manque, Paris va se manquer de moins en moins, hein, d'après moi. Enfin, d'après moi, maintenant, on sait pas, parce que même Paris, il nous faut souffler le chaud et le froid, des fois. Donc, mais non, moi, je dirais pas tournant. Il y en a eu d'autres de tournant dans ces cas-là.
Du gars.
Ah, moi, je pense clairement oui. Moi, je pense clairement oui, parce que je pense que ils auront pas beaucoup de jokers jusqu'à la fin de la saison, et ils en ont déjà brûlé un. Ils en auront un, peut-être deux, mais je suis même pas sûr. Et pour moi, ils ont déjà brûlé leur joker. Surtout quand t'as mené 2-0, le perd de 3-2. Voilà. Moi, je pense que ce match, il avait en main. Et ouais. Il fallait le gagner et tu pouvais aller à Strasbourg un peu plus tranquille. Un nul, ça suffisait. Mais là, tu te mets sous pression. Moi, je suis comme Jérôme, je les vois pas gagner à Strasbourg. Ou alors, ça serait une sacrée belle réponse à cette défaite face à Monaco. Mais je les vois pas gagner, donc ça veut dire que je les vois aller au mieux avec un nul. Ça veut dire qu'au pire, tu paries prendre 4 points et c'est fini, tu les retrouves plus. tu les retrouveras plus. Après, t'as un PSG, PSG Lens, c'est terminé. Rideau, Balzac.
Donc ils ont perdu à Strasbourg pour vous déjà, du coup.
Ah non, bien sûr que non. Mais après, on est là pour faire des hypothèses. On est là pour se projeter un peu, avec peut-être beaucoup de bêtises aussi. Mais je pense que perdre ce match-là dans des conditions pareilles, ensuite, juste avant d'aller à Strasbourg, un match ultra difficile, ultra compliqué, ils peuvent pas se permettre. Ils ont pas de joker, les Lensois. Ils en ont pas. Regarde là, ils se retrouvent vite avec 2 points de retard et t'as Paris en face, t'as un concurrent hors norme. Donc oui, je pense que moi ça va être ce tournant là de la saison où cette défaite là va énormément compter dans la tête et dans les jambes.
Mais du gars, le problème, c'est que là, on parle comme si Lens était un rival.
On parle pour le titre, bien sûr.
Oui, on parle de titre, c'est pas d'être le titre. Et que c'est le rival.
C'est la course au titre. Bah oui, mais même eux, ils en ont parlé. Cet objectif-là.
La semaine dernière, on a fait un débat sur la course au titre. On a dit, est-ce que c'est la course au titre? On a dit, alors ceux qui étaient à l'antenne, on a dit oui. Et regarde, première marche dans la course au titre.
C'est vrai, mais justement, quand même, les gars, moi, je sais pas, j'étais pas là ce jour-là, mais que Lens puisse à ce moment-là de la saison se dire il y a un coup à jouer jusqu'au bout. On leur pose 100 fois la question, à un moment donné ils vont dire oui, à force ils vont dire on est dans le... Mais les gars, quand même, il y en aura d'autres de tournant d'ici la fin de la saison. Ils vont perdre d'autres lances de match. Ouais, et donc vous allez dater la perte du titre ce week-end-là. Donc
Strasbourg. Moi j'additionne les deux matchs. Les deux matchs là pour moi vont être.
Eric,
si Paris se retrouve par exemple avec 4 points, il faut un nul. Ça fait 4 points.
Là, c'est le Barça. Ils sont en course contre avec le Real. C'est City soit course contre Arsenal, c'est
Eric, il faut des miracles
depuis le début de la saison.
Mais c'est miracle.
À un moment donné, quand il n'y a pas un miracle, quand le match se tourne contre eux, c'est le tournant.
Attends, ce que je veux te dire, c'est qu'on a aussi vécu dernièrement, quand Montpellier fait l'exploit, quand Lille fait l'exploit d'être champion. En fait, il y a des matchs charnières, et tu le sais très bien qu'il y a des dynamiques à pas casser quand t'as une série qui se poursuit. Non, une série qui va être compliquée. Aujourd'hui, en effet, quand tu vois comme ça, alors comme tu le dis, peut-être qu'ils ont pas perdu à Strasbourg. Moi, j'espère qu'ils vont rebondir. Ils ont toujours fait.
À Strasbourg, on fera un autre débat lundi prochain.
Voilà, exactement. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas le meilleur moyen d'avoir préparé ce déplacement qui va être chaud à Strasbourg. Et surtout après, t'as aussi un objectif parce que c'est eux qui l'ont dit, Lens n'a jamais gagné la Coupe de France. Ils vont aller à Lyon pour se qualifier pour une demi-finale de Coupe de France. En effet, avant d'aborder ces deux matchs-là, quand tu perds comme ça, de cette façon-là, contre Monaco, t'as quand même l'impression que la dynamique, tu l'as cassée, et que tout ce qui se faisait.
Ils se font pas un mauvais match, ils se font pas bouffer.
Les gars, quand même, c'est le
contraire qui se passe pendant une heure, pratiquement. Ouais. Vous avez vu le match comme un
moment. Oui. Voilà, la première mi-temps est pas incroyable.
Est-ce que mentalement, on sait pas.
Ouais, je pense
quand tu laisses partir un adversaire, alors, il serait au duel avec une autre équipe, à 1, 2 points, 3 points, tu peux
dire. Avec Marseille, oui.
Et quand c'est Paris, quand même, avec l'armada qu'ils ont, ça serait pas un duel avec Paris, peut-être que j'aurais un autre discours, mais là, Paris, tu peux pas leur
dire. Et autant à la fin de la saison, il y a 10 points. Autant à la fin de la saison, il y a 10 points d'écart entre les deux équipes, les gars.
On dira que le tournant, ça a été contre Monaco.
Il y en aurait eu moins de 4 de tournant.
Écoute, on fait ce qu'on veut parce que c'est Rotten Sanflamme. Voilà.
D'accord.
Non, mais on pose la question aussi parce qu'on a vu des attitudes et notamment après le match, des déclarations qu'on n'avait pas l'habitude forcément de voir chez les Lensois. Ils étaient très énervés. Il y avait Malang Sarr notamment qui était très en colère, qui disait c'est un miracle pour Monaco.
Mais le scénario, les gars. Oui. 2-0. Tu gagnes 2-0.
C'est eux qui sont sur le terrain.
C'est normal que tu sois déçu et que tu t'en veuilles et que tu aies
Est-ce que tu comprends la déclaration de Pierre Sage ou de certains joueurs? Parce qu'il n'y a pas que Pierre Sage qui l'a dit. Il dit ouais, on a déconné, on a fait des erreurs individuelles. Mais quand tu prends des buts.
Ça, c'est sûr. Une énorme bêtise.
Non, mais quand tu prends des buts, c'est toujours des erreurs individuelles de l'adversaire ou collectives. Parce que à l'arrivée, le premier but, quand il dit erreur individuelle, c'est Thauvin qui fait un appui dans l'axe, il récupère le ballon, l'autre il rate sa remise, il prête. Non mais écoute, d'accord, mais derrière t'as le gardien qui fait une cagade sur la frappe. Je suis désolé. T'as le défenseur qui peut être plus proche. En fait, si tu veux, il y a plein d'erreurs dans une action. Mais quand tu prends des buts, forcément il y a des erreurs. Le football, c'est ça, c'est fait d'erreurs défensives pour marquer des buts.
T'as des buts qui sont plus ou moins donnés quand même par l'adversaire.
Ah bon, et l'égalisation de Zakaria sur le corner qui repoussait le centre magnifique de Caio Henrique pour Zakaria, c'est une erreur de qui? De marquage. Ah bah oui, mais bon, quand tu marques un but sur un centre ou sur un coup de pied arrêté, oui, il y a toujours une erreur de marquage. C'est ça. Et le dernier but, en effet, il se tamponne dans le milieu de terrain là, les deux défenseurs et Ansu Fati part tout seul au but. Là, d'accord, les deux ils doivent se parler. Mais quand tu fais des erreurs comme ça collectivement et tout ça, et que tu te fais remonter, c'est surtout mental. Tu mènes 2-0 chez toi, Bollard, dans un stade qui est à fond. Et même les commentaires, tout le monde disait ouais, il faut une année incroyable à 2-0, c'est déjà fini, fantastique, ils vont battre le record du nombre de victoires de suite à Bollard. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent et tu prends un premier coup derrière la tête, un deuxième, un troisième, tu perds ce match. Mentalement, je pense que ça va pas être facile.
Alors,
sur les prochains matchs.
À Benjamin, ce qu'il en pense dans Rotten sans flamme en direct. Salut Benjamin.
Salut Benji.
Allez, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous?
Ça va. Écoute, on est en forme. Bon alors, toi,
Je vois ça. Vous êtes en forme. Bon. C'est agréable.
Quand, heureusement encore. Écoute, on parle de foot, c'est la passion de toute façon.
Exactement.
Écoute, toi, ton équipe a perdu 3-2. Comment tu l'analyses, toi, cette défaite?
Pour moi, le match contre Monaco, c'est un match important, mais pas crucial. Pour moi, je sais que Jérôme, ça va te faire bondir, mais pour moi, c'est match contre Paris qui va être vraiment crucial parce que ça va être vraiment le face-à-face. Et si on arrive à accrocher Paris... Laisse-moi finir, Jérôme.
C'est François.
Pardon,
si on arrive à accrocher Paris et aller chercher la victoire, on peut leur mettre un coup au casque parce qu'ils vont avoir à la fois chercher la Coupe d'Europe et le championnat. Et si on arrive à les faire douter dans le championnat, c'est à savoir, entre les blessures et puis les deux compétitions à gérer, laquelle ils vont aller au
premier. C'est ça votre erreur, c'est que vous pensez qu'à Paris, vous allez le perdre ailleurs, le championnat.
Mais Eric, il y a qui derrière nous? C'est du gars. Lyon, ils sont loin. Nous, on se bat avec Paris aujourd'hui, il faut qu'on en profite. On se bat avec Paris.
Benjamin, moi je te pose la question comme du gars, c'est-à-dire que toi tu me parles du match de Paris et c'est une erreur pour moi des joueurs aussi d'y penser. Mais bon, juste avant, donc je regarde, il y a ce déplacement à Strasbourg. Donc imagine à Strasbourg, tout le monde se chope un peu Strasbourg et arrive pas à gagner. On l'a vu Lyon hier. Donc imagine tu gagnes pas à Strasbourg. Le PSG va aller au Havre, donc je te dis pas qu'ils vont gagner en marchant, mais presque. Donc, ils prendront 4 points, voire 5 points d'avance. Après, tu vas donc recevoir, Metz, ça c'est l'équipe de François, normalement c'est cadeau. Après, tu vas à Lorient. T'as vu Lorient en ce moment, comment ils jouent?
En fait, il y a des matchs qui vont être importants.
Et puis t'as le derby. T'as le derby, Benjamin, t'as le derby contre Lille. À Lille. Donc tu sais qu'un derby, même si Lille a des difficultés, ça reste un match à part. Ça veut dire que avant les matchs de Paris, tu peux déjà avoir 3 ou 4 piqûres de rappel.
Ah ouais, non, mais là, du coup,
c'est mental, le tournant aujourd'hui.
Il y a des matchs qu'on va aborder comme tous les matchs de la saison qui vont être importants. Et il y a des matchs, si on gagne contre Paris, ça va leur mettre un coup derrière la tête. Parce que quand on est à distance, il y en a un qui gagne, un qui perd. Mais quand on joue contre eux en direct, c'est leur dire, on vous a battu, on vous a montré de quoi on est capable. Maintenant, attention, ne nous prenez pas de haut. Il y a Lille, effectivement, il y a Lorient, qui sont des matchs très importants. Mais Paris, ça reste comme l'équipe
à vouloir battre. Benjamin, pour le bien du championnat, j'espère que tu auras raison.
Les équipes combattu Paris cette année, regarde où elles sont. C'est pas le championnat.
J'espère juste que par rapport à ce que je viens de te dire, le calendrier, que le match le 12 avril, comme tout le monde le dit, il n'y ait pas 8 ou 9 points d'écart entre Lens et Paris. À l'arrivée, Paris pourra même se permettre de perdre et de faire tourner.
Nous, on veut notre affiche, comme Benjamin. On veut l'affiche.
On espère.
Voilà, le 12 avril.
Le prochain match, on va voir l'importance de Pierre Sage, qui va être capable de remobiliser l'équipe.
Ça, c'est important.
Vous avez vu là, vous avez perdu 2-0, vous gagnez 2-0, vous perdez 3-2 contre Monaco. Vous avez intérêt de vous bouger les fesses, pour rester poli. Et là, on va voir l'importance du personnage. Moi,
j'ai hâte de voir le discours. Là, on va grimper au rideau. Là.
Non, mais il y en a certains qui ont dit que c'était
un coup d'arrêt.
Comme le dit Benjamin.
Je plaisante.
On n'arrête pas de lui dire qu'il est supporter. C'est dur pour nous.
Benjamin, je plaisante.
Je vais bientôt venir à l'émission, Jérôme Rotten. Je vais venir un jour à Paris.
Viens avec plaisir.
J'attends l'invitation.
Vas-y, je te fais une invitation. Tu viens quand tu veux.
Je vais venir. Je suis venu une première fois à l'after. Je vais venir à Jérôme Rotten.
Reste à l'antenne. Déjà, tu vas t'énerver quand il va mettre son costume de sélectionneur.
Tu verras que c'est.
Il a fait Didier Deschamps. Il sera content.
Non, mais Benjamin, viens quand tu veux. Tu dis à Max et les portes sont ouvertes.
Voilà, avec grand plaisir.
Voilà.
Avec
on t'attend.
Mais j'ai postulé pour être la voix de l'after, donc on verra.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant vous pouvez postuler. Effectivement, vous allez retrouver ça sur rmcsport.fr pour faire partie de l'after. Merci Benjamin. Et l'invitation est lancée. Voilà. Ouais. Rotten sans flamme bientôt. Le supporter lançois.
Salut Benjamin.
Merci d'être venu. Et on espère bien sûr que ce match contre le PSG, c'est le 12 avril.
Mais arrêtez encore de m'en parler. Ça fait, c'est dans un mois et demi.
Et oui, mais on va en parler tous les lundis, Jérôme. Voilà, c'est comme ça. On en parlera tous les lundis.
Avant, on va parler de l'équipe de France.
Et peut-être qu'on fera le débat inverse lundi prochain, donc soyez là. Dans un instant.
Si Gaïa à Strasbourg, voilà. On dirait qu'ils sont relancés.
Et que le PSG perd, voilà, ça, hop, c'est parti. Un nouveau tournant. Bon, on sait jamais. Allez, dans un instant, Rotten sélectionneur. Ça aussi, ça va vous énerver, j'en suis sûr.
L'Amérique.
Une nouvelle liste des 26.
Et je l'aurai.
Et Benjamin, sois à l'écoute parce que je crois que ça concerne aussi des joueurs lensois.
Oui, ouais.
Dans un petit instant. Ouais. Il y aura un petit nouveau aussi dans cette liste des 26. On en parle dans un instant. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Rotten.
19h30 sur RMC, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme de ce lundi soir avec François Pinet, avec Christophe Dugarry, Eric Dimeco. Dans 15 minutes, le quiz de Louis Gerbier.
Alors c'est Loïc Moreau. Parce que figure-toi que là, je sais pas, il y a une hécatombe dans l'équipe, mais Louis Gerbier n'est pas là ce lundi.
Ah, il n'est pas là.
C'est Loïc Moreau.
C'est Loïc.
Mais c'est bien aussi, hein.
Écoute, Loïc, c'est très bien.
Ah, c'est très bien. C'est mieux.
Non, parce qu'il m'a fait perdre la semaine dernière. Mais
d'accord, bon, on va voir. En tout cas, il y a un maillot du Barça signé Xavi, authentifié, à gagner grâce à notre partenaire authentiquesignature.com. Pour remporter ce maillot, eh bien, il faut appeler 3216 touche 4 ou envoyer quiz au 7-32-16. Quiz au 7-32-16. Mais avant tout cela, c'est le moment que vous attendez tous. Alors là, à tout le monde qui écoute, joueurs, entraîneurs, agents de joueurs également, parce que c'est parti pour la liste des 26 de Jérôme Rotten, sélectionneur.
RMC Rotten sélectionneur.
On rappelle, RMC radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à partir du 11 juillet et jusqu'à la Coupe du Monde. On va vous faire la liste des 26 de Jérôme Rotten. Normalement, ça c'est pour le président de la République, mais c'est presque aussi important. C'est même plus important, la liste de Jérôme Rotten.
Attends, j'ai mon adjoint qui arrive, Raphaël Raymond.
C'est Fabrice Hawkins que l'on accueille. Salut Fabrice.
Je savais pas que Raphaël Raymond était adjoint de l'équipe de France.
Tu fais partie du staff, en tout cas, tu as un rôle important. Tu es là pour contrôler un petit peu la liste.
Il est adjoint de
Didier Deschamps. Il fait des listes aussi.
Je pense qu'il participe aux discussions. Oui.
Et on salue Raphaël.
Oui. On nous appelle tellement que. Donc on l'embrasse.
Il nous écoute. C'est sûr qu'il nous écoute.
Oui, c'est sûr.
Pour s'inspirer, évidemment. Quatrième liste des Bleus.
Allez, quatrième liste. Écoute, les gardiens, Samba, Maignan.
Ça, c'est normal. Ça bouge pas.
Samba, Maignan, numéro 1, numéro 2. Numéro 3, j'ai changé Risser.
Ah ça y est, donc, il sort déjà de la liste.
J'ai envoyé des émissaires
sanctionnés sur un match
à Lens, à Bollard.
C'est catastrophique.
C'est un tournant.
J'ai envoyé mon entraîneur des gardiens là-bas.
Ouais, il était là-bas,
Franck Ravio, qui était là-bas. Fabrice aussi était.
Ouais.
Et donc, il n'a pas supporté la pression. Donc, je pense que pour son bien, pour l'instant, je vais le mettre de côté.
Ouais, ça ne veut pas dire qu'il est définitivement écarté.
Et on avait parlé avec Fabrice, je fais rentrer Butez, le gardien de Com, qui a réussi en plus l'exploit de gagner contre la Juve.
Avec
il a été très bon.
Tout le monde gagne contre la Juve.
Donc, c'est vrai que c'est pas faux. J'ai hésité à Galatasaray prendre des joueurs, mais il n'y a pas un joueur français. Ah si, il y en a un en plus.
Ouais. Bon, on parlera de Jean Butez avec Fabrice dans un instant.
En défenseur, donc Koundé, ça bouge pas. Konaté, ça bouge pas. Upamecano, pareil. Ouais. Saliba, Fofana, Udol, ça bouge pas. Lucas Digne sort de ma liste. Il joue moins en ce moment. Il joue plus. il a perdu sa place à Aston Villa. Donc j'ai mis Lucas Hernandez. Pourquoi? Parce que Lucas.
Parce qu'il joue pas.
Parce qu'il joue.
Il a joué.
Il a joué. Il a joué. Il est récompensé.
Il était là.
Voilà, c'est bon. C'est un message que je lui envoie. Si tu joues, Lucas, tu seras là. Mais il va falloir jouer. Et il a été très
fort de ce corps.
Il a été très bon. Et je reprends Malo Gusto.
Ah, il fait son retour.
Ouais, qui joue à
il
Chelsea.
Joue pas non plus.
Le genre de Chelsea. Si, si, il joue à Chelsea. Arrête.
Il est pas titulaire.
Mais si, il a joué ce week-end, arrête.
Oui, ce week-end.
Arrête. Il a été observé
donc,
aussi.
Donc, je fais monter Warren Zaïre Emery au milieu de terrain.
Ah oui, parce qu'il était défenseur dans la précédente.
Oui, et puis ouais. Warren, il comme mérite il autant. Et c'est bien parce que même lui le reconnaît et qu'il était moins bien et que là, il y a des choses qui ont changé. Mais là, il est très bon et il rejoue au milieu de terrain. Il a été très bon ce week-end aussi. Donc, il réintègre le milieu à la place de Khéphren Thuram, qui est lui dans le dur en ce moment avec la Juve. Je sors Khéphren Thuram, je mets Warren Zaïre Emery au milieu de terrain. Je garde Kamavinga, Tchouaméni, mais ces deux-là aussi, il va falloir qu'ils se bougent. Tolisso, Kone, Rabiot, Kanté, Cherki, ça bouge pas. Et les attaquants, bah, c'est les mêmes. Hein. C'est compliqué de rentrer dans mes attaquants. Dembélé, Olise, Doué, Barcola, Mbappé, Ekitike et Nkunku.
Voilà.
Ce sont les joueurs qui sont bien partis pour faire la Coupe du Monde.
Donc les perdants, vous l'avez compris de cette semaine, Khéphren Thuram, Lucas Digne, Risser qui sort donc après ce mauvais match remplacé par Jean Butez qu'on connaît peu, mais vous l'aviez cité hein, avec son adjoint Fabrice Hawkins qui il avait repéré.
C'est Fabrice qui
gardien de Côme et qui a été lui aussi supervisé.
Oui, effectivement, dans un match contre le Milan AC, d'ailleurs, Franck Raviot qui a vu les deux gardiens, Mike Maignan et Jean Butez, les deux n'ont pas eu de chance parce que ils sont coupables de petites erreurs, mais Jérôme le disait et il a tout à fait raison, il fait partie des joueurs qui sont regardés, qui sont scrutés, notamment par rapport aux contre-performances de Lucas Chevalier qui est sur le banc de touche du Paris Saint-Germain et
Areola aussi qui joue plus avec West Ham.
Areola, ouais. Donc il a peut-être une carte à jouer Jean Butez. Risser est sorti de la liste. Il a été malheureux en Ligue 1. Lui aussi a été supervisé par Franck Raviot. Décidément, il n'a pas forcément porté chance au gardien qu'il allait voir.
Mais, qu'il se déplace.
Mais Jean Butez, effectivement, s'il continue à bien jouer comme ça, qu'il a de la réussite et que ses concurrents ne sont pas performants ou continuent comme Lucas Chevalier sur le banc de touche, il a vraiment une carte à jouer.
Après, c'est pour être troisième gardien. Eric, un troisième gardien, bon, bah, il y a aussi d'autres qualités. C'est pas que sur le terrain qu'on
le. Je m'en fiche totalement. Sincèrement, le troisième gardien, je m'en fiche totalement.
Ouais. C'est sympa.
On
embrasse
Jérôme Charbonnier. Mais
il va changer la semaine prochaine en plus.
Donc, non, mais on embrasse Lionel. C'est vrai. Lionel, je suis avec toi.
C'est dur.
Non, mais. Bon, on a compris hein, le concept. Jérôme va changer 3 ou 4 joueurs toutes les semaines. Il y a pas de souci, mais en tout cas son constat, c'est quand même un constat de réalité. On a du mal à avoir des gardiens très performant en ce moment parce que même nos deux titulaires ont été en difficulté. Samba a été en difficulté et comment s'appelle Maignan au Milan, il est en difficulté en ce moment. Alors bon, la difficulté du mois de février veut pas dire qu'il sera en difficulté pendant la Coupe du Monde.
On
mais
espère
bon,
pas,
c'est une réalité. Et puis le poste d'arrière gauche, malgré tout,
parlons de la théorie,
c'est un
parler,
problème.
Et on peut parler à droite aussi.
Ouais,
malgré
pareil.
Tout, on a ce problème-là depuis des années. Je me demande si le dernier latéral, les deux derniers,
Costaud, un déboulonnable.
Costaud et tout,
c'était
Lisa
pas
et Samuel,
toi, c'était
quoi.
Toi. Willy,
non, c'était Lisa. Lisa, c'est
Bichette
et Willy Sagnol. Il me semble. Depuis, on a un gros problème de.
Bah, à son prime, t'avais quand même Lucas Hernandez.
C'est pas sympa pour François Clerc.
C'est le défenseur central qu'on a mis là parce qu'il y avait personne.
Ouais, mais Bouka fait une bonne Coupe du Monde.
Mais il fait une bonne Coupe du Monde. D'ailleurs, on a que des défenseurs centraux
derrière.
Pareil de l'autre côté. Donc c'est qu'il y a un gros problème de latéraux.
Complètement.
En France depuis un long moment.
Il y a eu Patevra quand même. Il y a eu Patevra.
Il y a eu Patrice, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il fait une grosse carrière.
Oui.
Non, mais Lucadine, ça va peut-être devenir un vrai problème, hein, parce qu'il a été sur le banc trois fois lors des quatre derniers matchs avec Aston Villa.
C'est surtout quand il a joué, dernièrement aussi, parce qu'il a fait des matchs. Il a été catastrophique.
Il y a l'équipe de France.
Non, non, avec son club.
Parce que j'allais dire, à l'équipe de France, Lucadine, c'est jamais
c'est quand même une valeur sûre. Oui, ça, c'est vrai.
Mais il passe rarement à côté.
Non, mais c'est exactement ce qu'il protège.
C'est que ce mec-là, il a jamais déçu une équipe de France.
Ça, c'est vrai.
Ouais. Et c'est ce qui me fait dire que pour le moment, il conserve quand même, je pense, dans l'esprit de Didier Deschamps, une longueur d'avance sur les autres. Après, il faudra voir et ce sera toute la question de cette liste du mois de mars. Est-ce qu'il peut appeler Mathieu Udol, parce qu'on sait que ce sera très compliqué pour lui, pour le Lensois, d'être dans la liste finale pour la Coupe du Monde s'il n'est pas appelé en mars. Et vu bonnes performances, il mériterait.
Ouais, mais il y a Lucas Hernandez. Est-ce que lui, le fait de ne pas jouer beaucoup au PSG,
il y a Théo aussi.
Il y a Théo Hernandez.
Oui, mais Lucas Hernandez, il peut aussi être considéré comme un défenseur central axe gauche. Et je sais que c'est aussi un point que regarde le staff. Il y a beaucoup de droitiers.
Il y a pas beaucoup de gauchers.
Konaté, Upamecano, William Saliba sont tous droitiers. Oui. A priori, ils vont y aller s'ils sont pas blessés. Et pour après, le gaucher, poste, il aimerait bien peut-être un gaucher.
T'as raison. Et en gaucher, quand on fait le tour comme ça, tu dis Lucas Hernandez, mais il joue pas assez pour l'instant. Là. En effet, il est là parce qu'il a joué, mais certainement qu'il va reprendre sa place sur le banc.
Benoît Badiachil.
Badiachil qui joue un peu avec Chelsea depuis que Rossignol est arrivé. C'est vrai qu'il joue beaucoup, mais Badiachil, il part de loin aussi. Hein,
il parce part de loin, bien sûr. Et puis il y a des droitiers qui poussent, il y a Wesley Fofana, il y a du monde.
Eric et Dugas, vous parlez aussi des soucis à droite, hein, parce que là, Malo Gusto revient dans la liste de Jérôme. A priori, il est quand même partant pour la Coupe du Monde. Parce que derrière Koundé, il n'y a pas grand monde non plus. Hein.
D'où l'intérêt peut-être d'avoir Warren Zaïre-Emery, de l'appeler au milieu de terrain. On sait qu'il peut dépanner à droite, même si dans l'esprit du sélectionneur, il n'a pas forcément envie de le faire jouer arrière-droit dans une défense à 4. Mais c'est vrai que ça peut être une option intéressante. Malo Gusto, il est titulaire 7 fois sur 8 sur ses derniers matchs en PL. Il fait quand même des bonnes rencontres, des bonnes prestations à chaque fois. Donc dans l'esprit du sélectionneur, je pense que juste derrière Jules Koundé, c'est lui.
Ouais. Koundé, Gusto, ça vous inspire quoi, Dugas ?
Pas grand-chose. Non, mais pas grand-chose, parce que on a toujours eu des joueurs quand même plus que confirmés à tous les postes. Ouais. Alors après, tu pouvais avoir mais c'est vrai que sur les latéraux, c'est pas des joueurs qui sont des titulaires indiscutables.
Ah, Koundé, si, mais il joue beaucoup.
Le seul, excepté Koundé. Mais voilà, je trouve qu'on a un problème dans un des postes en football qui a le plus évolué. Ouais. J'ai l'impression que nous, par contre, on a toujours autant de mal à faire des centres de qualité. On a toujours autant de mal à combiner dans les couloirs. Je trouve que nos rôles de latéraux sont assez pauvres. C'est-à-dire que même Koundé, bon, je dis très bien, mais je trouve que c'est un latéral qui fait le minimum syndical.
Ouais, c'est un défenseur central. Il défend bien,
il apporte offensivement de temps en temps. Mais
le but, c'est surtout de défendre derrière Yamal. Hein. C'est ce qu'on lui demande au Barça. Ouais.
Puis de toute façon, vu que c'est Kylian Mbappé le numéro 9, on leur dit surtout centrez pas, parce que de toute façon, il ne sera pas à la réception du centre.
Non, mais voilà, t'as Digne qui centre un petit peu mieux, mais après les autres, je trouve qu'on manque cette arme offensive qui est devenue pour les latéraux que l'on n'a pas ou qu'on exprime.
Et pour Dubon, même si on en rigole avec la liste ou quoi que ce soit, mais Udol a cette qualité-là.
Ah oui, c'est clair.
Non, Udol, il peut y aller. Et puis, comme le disait Dugas, c'est une réflexion tout à fait juste. C'est vrai qu'il y a du mal en France avec ce poste-là de latéral. Ça fait plusieurs années maintenant que ça a été identifié. Moi, j'avais posé la question à la fédération où on me disait qu'effectivement, pendant plusieurs années, ils s'étaient concentrés sur la formation de défenseurs centraux et qu'ils étaient en train de former petit à petit, spécialiser les joueurs à ce poste de latéral. Mais forcément, ça prend des années. Et ces joueurs-là, ils vont arriver sur le marché dans les années à venir.
Oui, parce que
je sais pas qui c'est, si c'est Dugas ou Jérôme qui a dit ce poste qui a évolué. Il a pas tant évolué que ça.
Quand même, on leur demande beaucoup de choses.
Ouais, ça dépend des coachs. Ah bon, quand on voit le positionnement d'Hakimi.
Ça dépend, mais vous venez au milieu des années 90, que faisait Lizarazu?
Ben oui, c'est vrai.
Non, mais à un moment donné, vous me faites.
Ce que faisait Sagnol. C'est sûr que ce que demande Deschamps aux latéraux, c'est quand même pas très
bien. À un moment donné, me demande si vous vous souvenez de ce qu'était le football. La seule différence qu'il y avait, c'est que, et ça, je parle ces deux-là, parce qu'on a dit, on a daté que c'était les deux derniers qui s'étaient posés à ces postes-là. La différence, c'est que ils avaient des pieds. C'est-à-dire que, parce que maintenant, le mec, il faut qu'il monte 20 fois. Par contre, il fait deux bons centres dans le match, hein. Deux. Il en a fait. Par contre, alors, il est monté 20 fois. Hein. Eux, ils montaient pas 20 fois, hein. Par contre, chaque fois qu'il montait, il y avait danger. Et surtout, c'était les bons défenseurs. C'était les mecs, ils verrouillaient leur couloir maintenant. Tiens, latéral, il monte. On lui demande de monter 20 fois. Il fait deux bons centres. Par contre, dans son couloir, c'est gruyère. Donc voilà, ça a évolué. C'est vrai que ça a évolué. Le poste a évolué, c'est-à-dire que les latéraux ne sont plus des défenseurs. Et oui, et c'est pour ça d'ailleurs que on a des défenseurs centraux maintenant qui sont devenus le substitut du latéral, même quand ils jouent dans l'axe. Donc du coup, mais quand on veut de la sécurité défensive, on met des défenseurs centraux parce que les latéraux ça veut plus défendre. Mmh. Voilà. Mais donnez-moi des et c'est pour ça que Digne je l'aime bien parce que vous regarderez ces matchs en équipe de France, il y a chaque fois des bons centres. Ouais. Chaque fois quand ils montent, il y a des bons centres.
Ah ça c'est vrai.
Il y a peut-être personne devant le but parce que on n'a plus les Giroud et il y a peut-être Ekitike qui va arriver. Mais tu vous regarderez, il fait toujours.
Il tire même les corners.
Théo pareil. Théo, ouais. Bon pied.
Ça fait deux ans qu'il n'a pas mis un bon sens.
Ça a évolué, mais pas dans le bon sens pour moi. Bon. Je suis désolé, les gars. Ouais.
En tout cas, c'est un vrai débat. Les latéraux en équipe de France, et on en reparlera sans doute la semaine prochaine dans une autre liste.
Une autre liste.
De Rotten sélectionneur.
Et je ferai 3-4 changements, comme l'a dit Eric.
Ah oui. À chaque week-end, voilà, ça va tourner. Prochaine liste lundi prochain. Merci beaucoup Fabrice.
Merci les gars.
À bientôt.
Merci Rafa.
Dans un instant le quiz de Rotten sans flamme avec un super cadeau à gagner. Tous contre Rotten, c'est tout de suite.
RMC 18h-20h. Rotten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Rotten.
19h48 sur RMC. On se dépêche. On est un peu en retard. C'est le quiz de Loïc Moreau cette semaine, lundi. Salut Loïc.
Salut,
on est
les
avec
gars.
François Pinet. On est avec une équipe. Il va être constitué par Christophe Dugarry et Eric Dimeco, deux auditeurs, un super cadeau à vous faire gagner. Allez, on y va.
RMC, tous contre Rotten.
C'est Guillaume et Thomas qui vont s'affronter. Salut les gars.
Salut Guillaume, salut Thomas.
Bonsoir.
Beau cadeau ce soir, vous jouez pour un maillot du Barça signé Xavi authentifié. Grâce à notre partenaire authentique signature.com. On y va Loïc pour ce quiz.
Allez, on va squeezer un petit peu sur les entraîneurs, on va dire recordman de Ligue 1. Ça fait l'actu avec Antoine Comboiré, avec Claude Puel, et j'ai envie de vous tester là-dessus. Vous êtes prêts les gars?
C'est parti.
Ouais, on est prêts. Allez, petite question flash pour commencer. Vous l'avez vu, Antoine Comboiré va diriger son 9e club différent en Ligue 1, un record qu'il partage avec un autre entraîneur. Lequel?
Je l'ai vu passer ça.
Qui ça peut
je
être
vu passer, je l'ai vu passer.
Qui a fait beaucoup de clubs Duprat, Gourvenec.
Non, un peu plus à l'ancienne.
Lacombe, Girard. Non, pas Michel. Il a fait que deux clubs parce que Michel.
C'est Fernandez, Jean Fernandez. Ouais, bien joué.
Jean Fernandez. Je rappelle juste que Guillaume, supporter du PSG, tu joues avec Jérôme, supporter du PSG. Oui, et Thomas, il est supporter du Barça.
Allez, on va enchaîner avec une deuxième question flash. Avec Jérôme. Les deux nouveaux collègues, Jürgen Klopp et Antoine Comboiré, qui se sont affrontés en tant qu'entraîneurs lors d'une double confrontation européenne. Quelle était l'affiche?
De quoi?
PSG Dortmund. J'ai même pas eu le temps de
faire
la question. Bravo. Effectivement.
Partout.
Tu avais Klopp d'un côté à Dortmund.
C'était sûr, c'était facile.
Et Comboiré de l'autre.
Ah ouais, là, j'ai pas maté la poudre.
Hein. Que c'est PSG. Allez, on va continuer avec Antoine Comboiré et une question larquée.
Franziska, code de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent.
Allez, une petite question à l'ancienne. Antoine Comboiré va devenir le deuxième entraîneur à diriger le PSG et le PFC après le regretté Robert Vico. En quelle décennie c'était? Je vous demande la décennie.
Robert Vico?
Robert Vico, c'était en
70, c'était.
Voilà.
70, bravo.
Injouable, Eric.
Voilà.
Tu parles de mon enfance de footballeur là.
Il a joué contre lui.
Robert Vico.
Il a joué contre Robert. Qui nous a quitté le 6 janvier.
Ah bon? Ah
bah. Petite question auditeur.
C'est pour lui.
Allez,
c'est parti. Guillaume, vous Thomas, vous êtes prêts? Guillaume, tu joues pour Jérôme et
allez,
Thomas
Guillaume,
avec
Guillaume. Allez, Guillaume, défonce-le. Alors les gars, parmi les clubs actuels de Ligue 1, lequel a sur son banc l'entraîneur avec le plus de longévité?
Ah bah oui.
Ça fait 3 ans et 4 mois qu'il occupe son poste.
Angers?
Ce n'est pas Angers, mais on est dans le bas de tableau.
Toulouse?
C'est pas Toulouse.
Le Havre? Non, pas Le Havre.
Pas loin.
Bourgogne-Franche-Comté.
Auxerre.
Oui, Christophe Pélissier.
Eh oui,
qu'est-ce qu'il a dit Auxerre?
Je l'ai dit en premier, Auxerre.
J'ai entendu Auxerre, moi aussi. Hein.
Ouais. Bah, je l'ai dit en premier, Auxerre.
Hein. Oui, ah, c'est Guillaume alors.
Ouais, Guillaume.
Non, c'est Thomas.
C'est Thomas. L'Avare me dit.
Pas de triche. Ah, là,
c'est... Thomas, je l'ai pas entendu.
C'est Thomas. L'arbitrage vidéo m'a dit Thomas.
Ça fait nous, c'est ça.
Ça fait 3, oui, pour le reste du monde.
Allez, une petite question, Savilon.
Bah, c'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
Alors, quel entraîneur a connu la carrière pas florichonne suivante?
Oula.
Il a commencé à Rodez, puis Brive, Le Mans, aïe, Sochaux, Le Havre,
oula,
Bastia, Montpellier,
Brouhaha,
Metz et Alcor. Ce n'est pas Brouhaha.
Alcor,
au Qatar. Mm-hmm. Il a dirigé Jérôme de 2011 à 2013.
Perrin. Fred Hans.
Heinsberger.
Frédéric Hanks, le poids pour Jérôme. Ça fait 3-2 pour le reste du monde.
Allez,
il a
été question,
à l'accord.
Il a fini là-bas. Petite question d'Imeco.
Oui.
Allez.
Bravo, messieurs. Vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
J'adore.
Alors, on va parler d'un autre entraîneur qui a marqué le week-end, Claude Puel, qui est monté sur le podium des entraîneurs avec le plus de matchs dirigés en Ligue 1. Derrière Giroud et Kader Firoud, qui a-t-il éjecté du podium?
Firoud, pardon.
Bien sûr.
Qui a-t-il éjecté du podium?
Gérard Rouillet. Il a dû éjecter.
Grand entraîneur.
Un grand entraîneur.
Bateux.
Oui, Albert Bateux.
Recordman des titres. Ah, bah dans les années où là
hein? Dans les années où là, exactement.
Dans les années où là.
Qui a entraîné l'OM en 80.
Pour le reste du monde, l'OM. Ouh, c'est la roue tourne.
Ouais, j'arrive à l'OM, il est entraîneur des pros.
Tac.
La bonne réponse vaut 3 points.
Combien?
3 points.
Oh là là,
ça suffit pas là, non?
Il y a 4-2.
Ah bon? On avait marqué plein de points.
Ah bah oui, mais j'ai rien noté. Là vraiment, il y a un huissier, c'est sérieux.
On fait confiance
comme avec Benoît Boutron.
Moi, je lui fais confiance à 100%. Allez, on finit avec une question flash.
Je déteste la triche.
Allez, c'est Claude Puel qui va trancher, ok? Claude Puel a débuté sa carrière d'entraîneur en janvier 1999. Exact. Qui avait-il remplacé?
Wenger. Il remplace Jean-Tigana.
Jean-Tigana, mais on a Eric stratosphérique
c'était ma période, les gars.
Et attendez, c'est bien parce que Thomas, il est supporter du Barça, il va gagner, Thomas, un maillot signé Xavi et authentifié. Allez, un maillot du Barça grâce à notre partenaire authentiquesignatures.com. Bravo Thomas.
Tous contre Roten sur RMC avec authentiquesignatures.com, le site de référence des maillots signés et certifiés, véritable pièce de collection. Rendez-vous sur authentiquesignatures.com.
Tu perds souvent avec Loïc, on va le remercier quand même.
Merci. Non, c'est pas vrai. Non. Moi, je veux des stats là-dessus.
Ah bon.
Ah oui, bah,
bravo Loïc. Je sais pas si toi le droit des stats.
Merci pour le quiz.
Merci Eric, merci Duga, merci
François. Et on se retrouve demain, François. En mode Ligue des Champions demain. Demain, on lance les 16e finales retour de Ligue des Champions. Vous saurez tout sur l'actu de ces matchs et surtout sur l'actu du Paris Saint-Germain Monaco, qui aura lieu mercredi soir en direct au Parc des Princes, et on y sera aussi au Parc des Princes. Donc rendez-vous demain 18h dans Roten sans flamme. Bisous, à demain.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.